au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour Jean Mauduit.
Bonjour.
Je crois que vous venez aujourd'hui nous présenter le dernier grand prix du roman de l'Académie française.
Le livre de Marc Bressan, La dernière conférence, paru aux éditions de Fallois et que vous pouvez vous procurer au prix de 18 euros.
Le grand prix du roman de l'Académie française, c'était le 30 octobre 2008. Comment est-ce que vous interprétez ce titre énigmatique, Dernière conférence ?
Il est effectivement un peu abscond. En fait, il faut comprendre la dernière conférence de son espèce. En réalité, il s'agit d'une rencontre internationale qui n'a rien de particulier, si ce n'est qu'elle se tient à Londres, ça non plus, ce n'est pas très original, mais d'octobre à décembre 1989. Je ne sais pas si cette date vous dit quelque chose. C'est la période durant laquelle vont intervenir deux événements inouïs, qu'on ne pouvait absolument pas, imprévisibles, stupéfiants, et qui ont modifié profondément notre monde, la chute du mur de Berlin et l'effondrement du tyran roumain Ceausescu.
Le livre traite donc de cette période de fin de guerre froide.
C'est exactement la fin de la guerre froide. C'est le passage d'un équateur géopolitique. On a vécu, je l'ai vécu, je dirais depuis le début jusqu'à la fin, dans cet univers glacial qui était très menaçant en réalité. Nous avions appris à vivre sous la menace. Mais c'était un univers organisé. Les choses étaient claires, ou du moins le paraissaient. Et pendant 40 ans, c'est quand même long, 40 ans, c'est presque une vie d'homme, pendant lesquelles ces 40 ans, ces 40 années, il y avait deux puissances, pas trois, deux, l'URSS, les États-Unis, assises chacune à l'autre bout du monde par rapport à l'autre, et qui se regardaient en chien de faïence, avec ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. C'était froid, c'était menaçant, c'était glacial, c'était organisé. Tout à coup, l'histoire prend un virage, on peut dire à 90 degrés, et tous les observateurs sont stupéfaits. Jubilation, inquiétude, désespoir, de toute façon, l'ordre est changé. Le monde ne sera jamais plus ce qu'il est. J'entends aujourd'hui, avec l'élection d'Obama, proférer des propos sympathiques sur l'espérance d'un nouveau monde. Heureusement que la dimension de l'espoir existe. Là, ce n'était pas une dimension d'espoir, c'était la réalité. C'était fini. Un mur qui s'abat, quel symbole. C'était un mur, on a vu les Berlinois l'abattre. Et on a compris que rien ne serait plus jamais pareil.
D'après ce que vous décrivez là, Jean Mauduit, je ne vois pas très bien en quoi est-ce que ce livre mérite un prix du roman. Il s'agit d'un roman ou d'un essai ?
Non, il s'agit d'un roman.
Il s'agit bien d'un roman.
Un excellent roman. Simplement, il a pour cadre cette conférence. Mais il va se passer des tas de choses. Marc Bressan, l'auteur, est un diplomate de carrière. Donc il est entièrement, sinon véridique, du moins crédible, et son héros comme lui, lorsque ce héros, qui s'appelle Jean-Pierre Tromelin, qui est le chef de la délégation française à Londres, tient un journal dans lequel il raconte, au long de cette conférence qui ne ressemble à aucun autre, les événements grands et petits. Et pas seulement ce qui se passe dans la conférence, mais ce qui se passe à côté de la conférence. Elle est présidée, cette conférence, par un Anglais très gentleman, Sir Alec, qui est peu professionnel et même gaffeur. Heureusement, il a un adjoint qui est un peu meilleur. Et les séances se succèdent sous le signe de l'ennui, parce que toutes les interventions dans la conférence sont connues à l'avance. C'est une pièce écrite une fois pour toutes. On sait à l'avance ce que va dire le russe, ce que va dire le polonais, ce que va dire, etc., etc. Tous les discours sont préétablis. Chaque camp s'enferme dans sa propre rhétorique.
Donc c'est une pièce de théâtre.
Un peu. Et la matière romanesque, puisque vous me posez la question, c'est d'abord l'humour avec lequel Bressan évoque les fastes un peu dérisoires de cette espèce de comédia dell'arte internationale. La verve qu'il apporte à dépeindre des personnages hauts en couleur. Il y a le Finlandais, par exemple, aux réactions imprévisibles, qui met ses grosses pattes là où on ne l'attendait pas. Il y a le Soviétique, qui se gargarise de grands mots. Il représente encore la ligne dure de Moscou, mais il est accompagné de partisans de la perestroïka, qui le surveillent d'un œil attentif. Il y a le représentant ouest-allemand, qui est un diplomate classique de la vieille école. Il y a celui de la RDA. Pas de chance, la RDA, parce qu'elle est en train de célébrer dans le FAST son 40e anniversaire. Et donc son représentant, dans les premiers jours de la conférence, est tout gonflé de certitude. Et puis il y a le délégué du Vatican, qui est un monsignor, j'allais dire pas très catholique, en tout cas très, très ambigu, qui observe tout le monde avec des mines de chat gourmand devant un petit oiseau. Bon, à tout ça s'ajoute l'intérêt de comprendre comment des personnages tous investis de hautes fonctions et qui représentent quand même sous les yeux du monde, on peut dire, des nations, des idéologies, comment ils occupent leur loisir. Parce qu'il y a une vie après la conférence, en fait, une vie après chaque séance. Alors ils prennent des repas ensemble, ils colportent des rumeurs, ils s'en repaissent, ils cultivent leurs petites rivalités, même les grandes, ils nouent des amitiés et même des amours. C'est une planète en réduction. C'est le monde de l'époque, ce monde de la guerre froide, dans sa vie officielle et dans sa vie parallèle. Et rien que ça, ça fait une matière romanesque formidable.
Et donc, en plein milieu de ce roman, qui court d'octobre à décembre de 89, oui. Il y a donc ce fameux événement alors, de
le 10 novembre 89.
La chute du mur de Berlin.
Et alors, tout se désagrège sous l'espèce de coup de boutoir des événements. Tout se désagrège, les repères se brouillent, les positions les mieux acquises sont remises en cause. C'est le dégel, c'est même la débâcle. Les soviétiques se déchirent entre marxistes, léninistes persistants et partisans de la perestroïka que j'évoquais tout à l'heure. Les alliés du pacte de Varsovie, pardon, la RDA, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, ne sont plus du tout des alliés, du coup. Et il n'y a qu'une nation qui persiste dans son attitude et pour laquelle la chute ne change rien, ce sont les Roumains. Curieux pays, très, très francophile, vous le savez en même temps, mais qui est tombé sous la dictature de ce Ceaușescu. Et les Roumains disent niet à toutes les propositions. Si bien que, à cause d'eux, la conférence a duré beaucoup plus longtemps de prévu. Parce que Margaret Thatcher qui est au pouvoir à cette époque-là, veut que la conférence s'achève sur une apparence de d'unanimité, en tout cas d'accord. Et tant que les Roumains disent niet, j'ai oublié de dire que la conférence était consacrée à l'information comme thème, hein, thème diabolique dans cette période précisément. Tant qu'ils n'ont pas dit oui, la conférence dure. Et le 22 décembre à 16h30, enfin, le représentant roumain articule en arrachant ses tripes littéralement un oui qui sonne le glas de la guerre froide. Il faut dire que c'est la veille, Ceaușescu est tombé et qu'on l'a vu exécuté. Faisant pâle figure avec sa petite bonne femme, deux petits vieillards qu'il avait disposé d'un pouvoir absolu et qu'on voit relativisé par la révolution, par l'exécution, par la mort. Ils ont été beaucoup, ils ne sont plus rien. Évidemment, vous étiez beaucoup trop jeune, vous, pour 89, vous aviez quoi ? Quelques petites années. Ça a été une stupéfaction générale, et on peut comprendre, on peut imaginer. Et il est clair que Marc Bressan a vécu des événements de ce type, la stupeur du monde occidental. Et le romanesque est dans l'opposition tragique. C'est là que je rejoins tout à fait votre analyse tout à l'heure. Oui, c'est du théâtre. C'est une tragédie. L'opposition tragique, au sens théâtral du mot, entre la dimension de l'histoire, qui est gigantesque, et les petites destinées personnelles. Ce sont de petits hommes et de petites femmes confrontés à une grande histoire. Nous sommes au théâtre, effectivement. Cette conférence qui n'en finit pas. Finalement, elle obéit aux règles de l'art classique. Unité d'action, unité de lieu, unité de temps, puisque ça se déroule en continu. Et c'est même le temps qui est la principale dimension, qui s'étire au point d'exaspérer les tensions. Et c'est le temps qui constitue la dimension numéro un du drame. Alors quant au personnage, et là on va voir comment ces événements à chaud s'impriment sur les individus. Le représentant de la RDA se suicide. Il n'a pas pu supporter de survivre à ses certitudes englouties. Il a perdu son évangile tout d'un coup. Le narrateur Tromblin nous fait confidence dans son journal de ses avatars personnels. Au début de l'action, il était enlisé dans une ancienne relation japonaise et il ne désirait rien tant que d'obtenir l'ambassade de Tokyo. Il y est d'ailleurs parvenu. Et haute lutte, grâce à l'influence du président Mitterrand, il a obtenu cette ambassade dont il rêvait depuis toujours. Le problème, c'est qu'entre-temps, il est tombé amoureux fou d'une Yougoslave, pulpeuse comme il se doit, prénommée Zorica. Et pour ses beaux yeux, il va renoncer à Tokyo. Il va...
N'en dites pas trop, Jean.
Ah, c'est vrai. Oui, il faut laisser. Eh bien, je laisse à nos auditeurs le soin de deviner ce qui va se passer. C'est bien une tragédie. Ça finit comme une tragédie.
J'entends ça. Est-ce que vous voudriez bien nous lire un petit extrait de ce roman de Marc Bressan ?
Je vais vous lire probablement le compte-rendu de la séance du 22 décembre, c'est-à-dire précisément celle qui voit céder les Roumains. Milescu ne se décide toujours pas à revenir. Dans le brouhaha général, les représentants d'organisations de plus en plus groupusculaires se succèdent à la tribune pour présenter leurs martingales respectives visant à en finir avec la coupure de l'Europe en deux. À la présidence, le très flegmatique Garrison a du mal à cacher son angoisse. Il a le sentiment de ne plus du tout maîtriser la situation. Il repense sûrement aussi à sa nomination ratée à Moscou, le rêve de toute une vie. Pour ne pas arranger les choses, Sir Alec, qui doit être en contact téléphonique permanent avec Margaret, se croit obligé de faire de rapides apparitions dans la salle. Il tourne un instant, lui glisse trois phrases à l'oreille, prend le large. Marcus Schuster fait de même, Schuster, à qui les circonstances ont fait perdre son éternel sourire. J'imagine qu'il se fait un malin plaisir à répéter à Garrison que la conférence court à la catastrophe. Tout à coup, Zorica est là. Le plus discrètement possible, elle se dirige vers sa place. Elle ne devine pas que rien encore ne s'est passé. Son adjoint l'en informe. Visiblement, elle a du mal à s'en convaincre. Alors enfin, elle se tourne dans ma direction. Un imperceptible sourire flotte sur ses lèvres minces. Sans se presser, elle se lève. Je n'attends pas les 5 minutes habituelles pour l'imiter. Alors ça, c'est pour camper le décor. Vendredi 22 décembre, le même jour, là on était au début de la séance à 15h50, le même jour à 16h30. Milescu a quitté son bureau. Milescu est dans l'ascenseur, Milescu arrive. Soudain, son ombre énorme se détache dans le contre-jour d'une des portes. S'interrompant au beau milieu de sa phrase, l'orateur du moment a le bon sens de ranger ses papiers vite fait et de déguerpir. Un silence de mort se fait. D'un pas lourd et désarticulé, le Roumain gagne sa place. Il est plus blanc encore que tout à l'heure. Tous les regards le déshabillent. Qu'il soit dans un état de désespoir absolu, c'est clair. Mais est-ce d'avoir à dire une fois de plus non à toutes les autres délégations, ou bien au contraire, sa terreur vient-elle d'avoir à articuler enfin le mot « oui » au nom d'un nouveau régime qui le révoquera dans les prochaines heures ? Non sans mal, il se faufile entre ses collaborateurs, trouve son fauteuil, s'y laisse tomber. Un moment interminable, il reste immobile derrière le dérisoire rempart de boules de papier qu'il a édifié ce matin. Il n'est pas besoin que la présidence lui donne la parole, tant elle lui appartient avec la plus grande évidence. Soudain, sa grosse bouche s'approche du micro dans un titanesque effort. La bouche s'arrondit. Da.
Merci Jean Audu pour cette lecture. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les références de ce livre ?
Alors, il s'agit donc de la dernière conférence, Grand Prix du roman de l'Académie française.
En 2008.
La dernière conférence par Marc Bressan, aux éditions de Fallois. 18 euros.